faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie. Voici l'un des buts que la mission évangélique Vase d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Et je bénis Dieu pour la parole de ce soir. Je vais continuer ce que je disais, ça fait quoi, deux mercredis. Et on a parlé du travail. Dis avec moi le travail. Amen. Je suis vraiment en train d'ouvrir mes yeux sur quelque chose de fondamental. Amen. Nous travaillons, nous faisons beaucoup d'actions, nous faisons beaucoup d'œuvres, mais quelquefois qui portent peu de fruits. Dieu est vraiment en train de m'enseigner sur le travail efficace. Il est vraiment en train de m'enseigner sur le fait que beaucoup de personnes agissent sans avoir des résultats parce qu'ils ne comprennent pas certaines choses. Amen. Amen. Et Dieu me parle parce que nous sommes en train de nous préparer à une grâce, une onction d'une nouvelle dimension qui vient bientôt sur l'Église. Alléluia. Il y a quelque chose d'extraordinaire et je l'attends dans mon cœur. Vous savez, chaque fois que je viens au mercredi des vainqueurs, je dis, bon Seigneur, aujourd'hui on doit adorer, prier pour que ta puissance descende. Je dis, vous n'êtes pas encore prêts parce que la puissance que je vais faire venir, il faut que vous augmentez votre capacité de contenir pour ce que je vais déverser. Amen. Il dit, ne courez pas après la puissance que vous avez vu manifester des années avant, où on prie, l'onction vient, on tremble, on tombe, puis on dit, c'était puissant. C'est vrai, c'était puissant, mais il y a encore plus grand. Et Dieu va de gloire en gloire. Il y a des gens qui sont nostalgiques. Amen. Qui veut voir encore qu'on revienne au moment, les paroles de connaissance, tu assises là, à ma droite. Tu as tel problème. Dieu le fait. Quelquefois, nous avons des cultes comme ça et je crois que ça va se faire encore. Amen. Mais je crois fermement que quand Dieu veut passer à nos dimensions, il prend le temps de nous enseigner de nouvelles choses, que nous puissions comprendre certaines choses. La Bible dit en Luc 2, 25 que Jésus grandissait en sagesse et en stature. Je crois qu'il a pris le temps de se plonger dans les Écritures, de comprendre la parole, de travailler son être intérieur afin de présenter au Saint-Esprit un vase capable de contenir beaucoup d'onction. Alléluia. Car Dieu vous remplit en fonction du vase que vous êtes, que vous lui apportez. Et j'ai dit dans l'enseignement sur l'amour les dimanches que ce qui fait le volume, ce qui fait notre volume spirituel, notre contenance spirituelle, notre capacité de contenir spirituellement, c'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour. L'amour. Et l'amour s'élargit, selon ce qu'on a vu, en fonction de notre connaissance, de notre compréhension de Dieu, de la façon dont nous regardons le Seigneur et puis tous les principes que nous avons enseignés. Amen. Donc, plus nous progressons dans notre amour pour Dieu, plus nous progressons dans notre amour pour le prochain, plus nous apportons à Dieu un plus grand vase. De sorte que lorsque l'onction de Dieu vient, il donne encore beaucoup plus. Amen. Le message en lui-même n'est pas encore l'onction. Jésus enseignait les disciples pendant 3 ans sans qu'ils aient reçu l'onction divine. Amen. Alléluia. Nous, le Saint-Esprit est là, mais on n'a pas encore reçu le baptême. Le baptême nouveau pour lequel je suis en train depuis des années d'enseigner ces choses. On ne l'a pas encore reçu. En fait, le Seigneur me donne d'enseigner ces choses dans la parole pour nous préparer à quelque chose-ci. Alléluia. Et je suis moi-même surpris de voir la vitesse des révélations et puis les choses, la façon dont ça vient. Et puis, je crois qu'il faut donner, il faut donner, il faut donner. J'ai dit, mais Seigneur, on peut pas, je ne vois pas qui pourra retenir toutes ces choses. Et moi-même, j'ai pris le temps, ces temps-ci, je me suis discipliné à réécouter tous mes messages. C'est-à-dire, moi-même, je suis là, puis j'écoute, je dis, mais comment il y a eu telle révélation? D'où telle chose vient? Et je me dis, mais Seigneur, comment l'Église peut-elle retenir tout ça? D'un dimanche à un autre, il y a quelque chose, il y a toujours des choses nouvelles. Le temps, tu n'as même pas fini de digérer. Le précédent message sur l'intégrité, d'abord, tu n'as même pas fini même de maîtriser, même de comprendre la maîtrise de soi. Pendant que tu es en train de réfléchir à la maîtrise de soi, si les principes de la maîtrise de soi, on est rentré dans l'intégrité. Le temps que tu veux mettre ta vie en règle par rapport à l'intégrité, on vient voir l'amour, tu te dis, je n'ai pas fini l'intégrité, on va sur l'amour, ainsi de suite. Et je me souviens pourquoi le Saint Jésus a dit, il leur a donné plein d'enseignements, il dit, la Bible dit que tout ce que Jésus a dit et a fait, aucun livre n'aurait pu contenir ce qu'il avait fait. Mais les disciples ont attendu. Et il a dit, bon, je vous ai dit beaucoup de choses, mais l'Esprit de Dieu va vous rappeler. Tout ce que je vous ai dit, il va vous enseigner, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Ça veut dire, bien sûr, il faut prendre des notes, il faut écouter les CD, il faut venir. Et puis, au temps de ce baptême dont je suis en train de vous parler, parce qu'il y a un baptême qui vient. Amen. Je n'annonce pas un nouveau baptême. Hein. Quand je dis, voilà, la Bible dit, il y a un seul baptême. Ok? Vous m'avez dit, non, parce que ça nous a dit, on nous a déjà baptisé dans l'eau. Maintenant, j'arrive, maintenant, il y a le baptême, je ne sais pas, peut-être dans le sable ou dans quelque chose comme ça. Non, c'est rien. C'est juste pour annoncer une nouvelle dimension, quelque chose de nouveau. Alléluia. Voilà, la Bible dit que Israël était baptisé sous la nuée. C'est pas qu'on l'a plongé dans l'eau, mais le fait d'être sous la nuée, de passer à une autre dimension, la Bible aussi a appelé cela un baptême. Amen. Amen. Et je m'attends à quelque chose de grand qui vient bientôt. Est-ce que quelqu'un sait déjà que quelque chose arrive? Alléluia. Alors, je vais dire deux mots, sur le travail qu'on va développer par la suite. Le travail. Dis avec moi encore le travail. Dieu donne cet ordre dans plusieurs passages de la parole, on va les lire. Deutéronome, Exode 20, dans Exode 20, par exemple, en parlant des 10 commandements, il dit ceci, tu travailleras 6 jours et tu vas te reposer le 7e jour. Ça fait partie des commandements de Dieu. Dernièrement, j'étudiais les principes et les lois de Dieu et puis le Saint-Esprit m'a dit, là il m'a parlé sur le repos. Il dit, tu vois, tu sais que j'ai donné un ordre pour te reposer, j'ai dit, tu vas travailler 6 jours et tu vas te reposer le 7e jour. Je dis oui, Seigneur. Il dit, tu vois, on ne donne pas un commandement, je me dis, on ne donne pas un ordre, un commandement, pour une chose qui se fait naturellement. Je dis comment? Il dit, dans toute la Bible que tu as lue, as-tu vu un commandement qui dit, commandement, tu vas manger tous les jours? Je dis non, il n'y a pas un commandement. Connaissez-vous une loi qui dit, écoute l'Éternel ton Dieu? Tu mangeras une fois par jour. Est-ce qu'il y a un commandement comme ça? Est-ce qu'il y a un commandement qui dit, ainsi dit Dieu, tu dois dormir tous les jours? Il dit, pourquoi il n'y a pas de commandement? Parce que c'est naturel. On n'a pas besoin de t'en donner un commandement pour manger. Le besoin est là et tu vas manger. Amen. Donc si Dieu dit, tu vas te reposer, ça signifie que ton corps naturellement peut refuser de se reposer. Et parce que c'est une loi, tu vas te contraindre au repos. Quelqu'un me suit? Alléluia. S'il dit tu ne commettras pas l'adultère, c'est parce qu'à un moment donné, ton corps peut avoir envie de commettre l'adultère. Et tu te souviens du commandement. Donc le commandement vient pour une chose qui n'est pas naturelle. Ça veut dire que naturellement, tu peux ne pas avoir envie de faire cela. Alors Dieu m'expliquait cela en ce qui concerne le repos. Il me dit c'est pourquoi savoir se reposer. Tu dois même prier même pour te reposer. Parce que quand vous travaillez beaucoup, il vous est très difficile de prendre un repos. C'est-à-dire quand le temps du repos arrive, votre cerveau veut travailler à tout prix. Et tu dois te souvenir que c'est un ordre. Et j'ai appliqué cela moi-même pour pouvoir me reposer quelques jours. Mais de la même manière qu'il a dit, tu vas te reposer, de la même manière il dit, tu vas travailler. Tu travailleras 6 jours. Ça veut dire quoi? Que le corps humain peut être attiré à la paresse. Et le verset de Exode 20 dit, il dit, tu vas travailler 6 jours. Il dit, tu feras tout ton ouvrage. Tu feras tout ton ouvrage. Tu vas travailler. Amen. Parce qu'on va se rendre compte tout de suite qu'il y a 2 manières de travailler. La dernière fois, quand j'ai parlé de cela, j'ai donné le thème un peu en vrac, j'ai touché un peu les points par-ci, par-là. Maintenant, je vais aller de manière structurée pour que nous puissions comprendre, nous puissions saisir. Alléluia. Dieu veut que nous travaillions. Et j'ai cité pêle-mêle la dernière fois les raisons pour lesquelles nous devons travailler. Quelqu'un avec moi? Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen vitaminé à la vitamine T. Vitamine T, c'est la vitamine travail. Et vitamine A, c'est audace aussi. Amen. Donc tout dépend de ce à quoi tu penses quand tu dis vitamine A. Amen. Tu dois travailler parce que Dieu bénit le travail. Je formule ça autrement. Dieu ne bénit pas les idées. Dieu bénit l'effort que tu mets en œuvre pour appliquer ton idée. Dieu ne bénit pas un rêve. Ce n'est pas parce que tu as la vision de voir la Côte d'Ivoire sauvée que tu seras béni. Dieu va te bénir quand tu vas commencer à travailler pour que la Côte d'Ivoire soit sauvée. Dieu ne bénit pas le projet que tu as pour le travail. Tu as des idées, demain je veux bâtir ceci. Ce n'est pas ça là que Dieu bénit. Dieu ne bénit pas les idées. Dieu ne bénit pas les projets. Dieu bénit les actions que tu fais pour accomplir, pour réaliser ton projet ou tes idées. Dieu bénit, autrement dit, Dieu bénit le travail des mains. Deutéronome, chapitre 30, verset 9, dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Donc, qu'est-ce que Dieu fait prospérer? C'est le travail des mains. Dieu ne fait pas prospérer les idées. Dieu fait prospérer le travail des mains. Dis à un voisin ces choses-là. Alléluia. Certains n'ont pas d'idées. Il y en a d'autres qui ont beaucoup d'idées. Si on touche tout à l'heure, on dit, mon frère, qu'est-ce que Dieu fait dans la vie? Il dit, voilà. Moi, je veux construire des routes ici. Je veux mettre la lumière là. Je vois que il manque ceci dans l'église. Ils ont plein de projets. Et c'est bien. J'ai souvent enseigné qu'il faut rêver. Dieu commence toujours par le rêve. Mais ce n'est pas le rêve en lui-même. Ce n'est pas l'espérance. Ce n'est pas le rêve qui voit venir la faveur de Dieu. C'est l'action pour accomplir le rêve. C'est pourquoi nous devons travailler. Si quelqu'un ne travaille pas, il ne peut pas être béni. Dieu bénit le travail. Alléluia. Dieu ne bénit pas la paresse. La Bible dit que le paresseux, il dort. Or, celui qui dort, quand vous lisez le proverbe, il est décrit le paresseux comme quelqu'un qui passe beaucoup de temps à dormir. C'est quelqu'un qui rêve beaucoup, mais qui n'agit pas. Dieu ne le bénit pas. Alléluia. Alléluia. Dis à voisin, Dieu ne bénit pas les projets. Mais il bénit le travail pour mettre en œuvre le projet. Alléluia. Alléluia. Dis à voisin, est-ce que tu as compris? Deuxièmement, c'est, il faut travailler parce que Dieu ne bénit pas, mais les fils de Dieu ne doivent pas manger le pain de la paresse. Le pain de la paresse, parce qu'on va toucher quelques mots sur la paresse, peut-être pas aujourd'hui. On va voir ce que c'est que la paresse. La paresse, ce n'est pas forcément ne rien faire. La paresse, c'est faire des choses aussi futiles. Alléluia. Alléluia. C'est bien qu'on parle du travail, non? Il faut qu'on parle du travail. Nous passons 6 jours, nous partons au boulot. Mais il faut qu'on parle du travail. Parce qu'il y a une mauvaise manière de travailler, il y a une bonne manière de travailler. On va voir que tout travail, si je définis le travail comme étant l'effort fourni, tout effort fourni aussi n'est pas béni. C'est le travail selon Dieu qui est béni. Vous allez voir. Parce que tu peux faire des efforts, mais ça ne sera pas béni. Amen, amen, amen. Amen. Donc, le paresseux peut fournir des efforts. Le paresseux, ce n'est pas forcément celui qui dort. Mais c'est celui qui fournit des efforts de manière inefficace. Que la Bible appelle futile. Et puis, bien sûr, celui aussi qui ne fait rien est paresseux. Amen. Proverbe chapitre 31, verset 27. Il est dit, en parlant de la femme vertueuse, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6. L'apôtre Paul dit ceci. Frères, nous vous recommandons aussi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les enseignements qu'il a reçus de nous. Car vous savez vous-même comment vous devez nous imiter, puisque nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre, et que nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais que nous avons été dans la fatigue et la peine, travaillant nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas pour être indépendant des personnes ne doit pas être soutenu. Il dit, il y a des frères parmi vous qui vivent dans le désordre. Et quand on va continuer le verset, il va dire, ces gens-là s'occupent des choses futiles. Ça veut dire, il décrivait un type de personne qui n'était pas, cette personne n'était pas inactive, mais elle travaillait de manière désordonnée. Et travailler désordonné, c'est sans vision, c'est sans objectif, sans but, sans rien. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir que, mes amis, le travail intervient partout. Pour prendre une prédication, il y a du travail. Pour chanter, il y a du travail. Pour placer, c'est du travail. Tout, le travail est partout. Et c'est le travail que Dieu bénit. Ça veut dire, le travail, c'est l'action. C'est une action. Amen. Et ce passage dit que il y a des personnes qui font des actions qui ne donnent rien. Ils agissent, mais de manière désordonnée. Paul les classe dans le groupe des paresseux. Et il y a ceux même qui n'agissent même pas. Il dit, toutes ces personnes-là, qu'elles ne mangent pas. Ça veut dire, si l'apôtre Paul, par l'Esprit de Dieu, recommande à ce que l'Église ou les frères n'aident pas les paresseux, à plus forte raison Dieu. Paul est en train de révéler que Dieu ne bénit pas les gens qui travaillent n'importe comment. Hein? Dieu ne bénit pas les gens qui refusent de travailler. Et Dieu ne bénit pas aussi le pain des paresses. Le pain de paresse, ça veut dire qu'il y a deux pains. Il y a un pain qui émane de la paresse. Parce que le paresseux même, pour finir quand même, il a un pain à manger. Mais ce n'est pas la nourriture qui est bénie. Il dit, la femme de Proverbe dit, la femme vertueuse de Proverbe dit, elle veille pour ne pas manger, pour ne pas que dans sa maison, il y ait du pain qui est fruit de la paresse. Amen. Elle avait dit, il y a du pain, il y a de l'argent qui vient, mais c'est un résultat de paresse. Quand on va étudier la paresse, tu vas savoir, est-ce que le pain que tu manges est le fruit de la paresse ou c'est le fruit du travail? Le salaire pour lequel on te paye, est-ce que toi-même dans ton esprit devant Dieu, tu penses que tu le mérites, les efforts que tu fournis là? Est-ce que tu penses que tu es en train d'apporter quelque chose d'utile à ta boîte? Est-ce que tu es honnête dans ton travail? Et puis à la fin on te paye, c'est du pain de paresse et c'est une œuvre que Dieu ne bénit pas. Il y a des personnes donc qui vont au travail tous les jours, mais qui ne se donnent pas, qui n'ont pas le cœur à ce qu'elles font à la tâche. Tout ce qui les intéresse à la fin du mois, c'est le salaire. Pour donner le document que leur responsable attend, elles vont prendre le temps. Et puis quand on les appelle, elles trouvent toujours des arguments. Non, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela, tu sais, patron. Je voulais écrire, mon bic s'est cassé. Mon stylo s'est cassé. Et dans la boîte, je vous ai dit d'acheter des stylos, il n'y en a pas. Et à la fin, cette personne-là attend qu'elle soit rémunérée. Ce salaire que tu vas avoir ne sera pas béni. Ce salaire ne finira pas le mois. Quand tu vas avoir ce salaire, les problèmes de ta famille, de tes parents viendront de telle sorte que, avant le 15, ton salaire finisse parce que Dieu ne l'a pas béni. Dieu n'a pas béni le travail de tes mains parce que tu triches. Les hommes ont travaillé, d'autres personnes ont travaillé et toi tu as mangé. Mais tu t'es camouflé et tu pensais que Dieu ne te voyait pas. Ton patron n'arrive pas à te contrôler parce que de toute façon à la fin, lorsqu'on fait le point d'ensemble, la boîte a travaillé. Mais toi à l'intérieur, tu n'as rien fait. D'ailleurs, tu n'étais jamais là. Quand tu t'assois au boulot, ton esprit est ailleurs. Tu es en train de réfléchir au commerce sur lequel tu as mis ta fille. C'est-à-dire que toi, tu es au boulot, tu es comptable, tu es trésorière. Et tu veux vivre de ce travail de trésorière, de comptable. Or, en réalité, ton cœur est sur ton activité de vente de paille. Tu as pris une jeune fille, elle vend les pailles, elle fait un commerce. Tout ton cœur est là-dessus. Au boulot, au travail, ton cœur n'y est pas. Et tu aimes ce salaire de la fin du mois. C'est du salaire de paresse, c'est du pain de la paresse. Et tu seras surpris de voir que l'Éternel ne t'élève pas. Tu seras surpris de ne pas prospérer. Parce que Dieu dit, je bénirai le travail de tes mains. Mais il y a un travail qui n'est pas le travail de Dieu. C'est ceux qui travaillent dans le désordre. Et ce que tu fais, c'est du désordre. Tu dis que tu es au boulot, mais tu n'es pas au boulot. Ton esprit est ailleurs. Tu dis que tu traites des dossiers dans la banque dans laquelle tu travailles. Oh, ton esprit n'est jamais dans la banque. Si tu demeures dans cette activité, c'est juste pour le salaire de la fin du mois. Tu n'es pas honnête. Le salaire que tu vas avoir ne sera pas pour une bénédiction. Avant le 15, il va finir en tes mains. Tu ne sauras jamais pourquoi. Tu seras toujours endetté en train de chercher une avance sur salaire. Laisse-moi te dire la vérité de la part de Dieu. C'est pourquoi tu as des blocages. Tu crois que c'est un démon de main sèche. Le démon de main sèche, c'est ta mentalité. Le démon de main sèche, c'est l'esprit de paresse avec lequel tu travailles. Tu aimes le pain de la paresse. Il faut travailler, mes amis. Alléluia. Alléluia. Moi, je crois que Dieu veut donner. Dieu veut bénir l'église. Vous comprenez? Je crois en l'élévation de Dieu. Mais je crois que Dieu ne bénit pas encore la Côte d'Ivoire. Parce que les chrétiens dans leur ensemble sont paresseux. On soumet trop la faveur de Dieu. C'est-à-dire on est des rêveurs, quoi. Mais on ne sait pas que Dieu ne bénit pas le rêve. Et Dieu ne bénit que le travail pour réaliser le rêve. Mais on ne travaille pas pour le rêve. Mais on est là seulement. Je serai à la tête. Mon frère, la tête. Et non la cœur. Je sucerai le lait des nations. Les richesses des nations viendront à moi. Mais nous ne travaillons pas pour atteindre cela. Et lorsque Dieu nous donne un travail, nous mangeons le pain de la paresse. Parce que notre esprit n'est pas dans ce que nous faisons, nous travaillons dans le désordre. Amen, amen. Dis à un voisin, saisis cette parole. J'ai été surpris de voir comment l'apôtre Paul maudit le frère. Il dit que un frère qui travaille dans le désordre pour des futilités, qu'il ne mange pas. J'ai dit, Paul, tu n'es pas dur quand même. Et quand je regarde le verset, je trouve qu'il ne dit pas le frère ne travaille pas. Il dit, il court après des futilités. Il travaille, mais dans le désordre. Un homme comme ça ne mérite pas son salaire. Oh, Seigneur. Alléluia. Troisième chose pour laquelle nous devons travailler. Dieu n'agit pas. Dieu n'accomplit pas ses promesses. Tant qu'il n'a pas trouvé un homme capable de travailler ou de cultiver ce qu'il a déjà fait dans le passé. Je dis, si Dieu a un plan, si vous voyez que le plan tarde à s'accomplir, c'est parce que dans le présent, on ne travaille pas suffisamment ce qui est déjà là. Alléluia. Car on va voir, si le temps le permet tout à l'heure, que le travail, en fait, comme j'ai dit, il y a deux formes de travaux, il y a deux manières de travailler. Alléluia. J'ai déjà quelques notions en parlant de travailler dans le désordre, de travailler pour des futilités. Bon, lisons Genèse chapitre 2, verset 5. Genèse 2, 5 dit ceci. Genèse 2, 5. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Gardez-moi ce verset à l'écran. Gardez-moi le verset à l'écran. Donc, dites-moi, frère, pourquoi il n'y avait pas encore des arbustes des champs? Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver. C'est-à-dire, Dieu avait un projet, mais tant que l'homme, pas n'importe quel homme, mais l'homme pour cultiver, tant qu'il n'était pas prêt, Dieu ne passait pas à une certaine phase d'action. Il dit donc, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Vous savez, la pluie, c'est la grâce. Voilà. Mais il n'a pas fait pleuvoir aussi parce que la terre manquait parce qu'il n'y avait point d'homme. Pas n'importe quel homme. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Alléluia. Donc, il y a des projets qui peuvent attendre, qui vont attendre, tant que Dieu ne trouve pas les hommes qu'il faut pour les cultiver. Amen. C'est-à-dire, quand Dieu les trouve, Dieu commence à enchaîner le processus pour mettre en place. Voilà. Donc, la gloire que Dieu prévoit pour la Côte d'Ivoire qui devient une bénédiction pour les nations, ne peut pas être mise en place. La glace, la pluie, le ciel, les écluses des cieux qui vont s'ouvrir pour faire tomber la pluie de faveur, l'onction nouvelle qui va tomber pour faire tomber la grâce de faveur ne viendra pas. Tant que les croyants ne seront pas disposés dans l'esprit du travail. Alléluia. Tant qu'ils vont demeurer dans la mentalité de la paresse, du désordre, des futilités, de travailler, de manger le pain de la paresse, tant qu'ils vont demeurer dans cet esprit, il y a une faveur nouvelle qui ne viendra pas. Il y a une pluie qui ne tombera pas. Il y a des fruits qu'on ne verra pas. Il y a des arbustes qui doivent être plantés, qui doivent donner certains fruits. Certains fruits qui ont été annoncés ne seront pas manifestés. À moins que les personnes comprennent qu'ils doivent cultiver. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Amen. Qui aime cette parole? Et j'ai cité d'autres raisons la dernière fois. Dieu lui-même aussi est travailleur. Dieu travaille. Jésus a dit, en Jean, il dit, mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi je travaille. Mon Père travaille. Dieu travaille. Dieu c'est un bosseur. Dieu bosse les gars. Dieu bosse. Dieu n'est pas paresseux. Dieu travaille. La Bible dit, il a créé la terre en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Parce que tellement il a travaillé, il était fatigué. Vous voyez ça? Et je vous ai dit la dernière fois que si le travail consistait simplement à prononcer des paroles comme on a lu, comme on peut le lire en Genèse 1, il n'allait pas être fatigué. Parce que ça, là, nous, on lit Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Que la lumière soit. Est-ce qu'on ne peut pas dire ça? Quand tu as fini de faire cette lecture, est-ce que tu as envie de te reposer? Tu n'es pas fatigué? La Bible dit, Dieu a fait cette déclaration-là pendant 6 jours. Le 7e jour, il avait besoin de se reposer parce qu'une force était sortie de lui. Donc, il y avait du travail. Alléluia. La parole, je ne sais pas si elle est accompagnée d'action. En tout cas, qu'est-ce qu'elle accomplit? Qu'est-ce que Jésus, Dieu faisait en parlant? Mais ça ne peut pas être simplement la parole comme nous la déclarons. Il y avait une puissance, il y avait quelque chose qui remplissait chaque prononciation de sa parole. Et chaque jour, lorsqu'il annonçait, une énergie, une puissance sortait de lui pour réaliser les choses qu'il avait dites. Et chaque jour, de sorte que après le 6e jour, Dieu-même a eu besoin de se reposer. Qu'est-ce que tu fais pour lequel tu as besoin de te reposer? Alléluia. Est-ce que ce que tu fais, bon, je me suis rendu compte aussi que la paresse aussi même fatigue. Parce que paresseux, c'est un travail, mais un travail futile. Oui, c'est pourquoi j'ai classé la paresse comme étant un travail. Mais c'est parce que le paresseux, c'est du travail. Il faut réfléchir à pourquoi dormir, pourquoi ne pas sortir de la maison. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir pour trouver les excuses. Il faut réfléchir. On dit, mais pourquoi dépose tes curriculums? Il faut réfléchir pour dire j'ai fait, pour trouver des excuses. Il faut réfléchir. Il y a du travail. Et puis, quand on dort beaucoup, on a des difficultés à se lever. Amen. Alors, j'ai dit aussi la dernière fois donc, qu'il existe deux formes de travail. Il existe deux formes de travail. Ce que nous allons étudier, pour moi, je dis, c'est juste vraiment l'introduction. La dernière fois, j'ai parlé un peu pêle-mêle. Mais c'est maintenant, je peux dire, j'introduis aujourd'hui vraiment. Il existe deux formes de travail. Jean chapitre 6, verset 27. Jean chapitre 6, verset 27. Jésus dit, travaillez, on va le lire ensemble. 1, 2 et 3, on y va. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Donc Jésus nous dit ici qu'il y a deux manières de travailler. Alléluia. Il y a travailler pour une nourriture qui périt et il y a travailler pour une nourriture qui demeure pour la vie éternelle. ces deux caractéristiques du travail qui sont très, très, très importantes. Amen. Il y a une de ces manières de travailler qui est comme une malédiction. J'appelle ça le travail de malédiction. Et il y a une autre façon de travailler qui est le travail de bénédiction. J'appelle ça le travail pour la vie. Alléluia. Alléluia. Et nous allons voir au travers des caractéristiques de ces deux formes laquelle nous utilisons aujourd'hui. Comment tu travailles? Peut-être que tu travailles, peut-être que tu es dans une entreprise. Tout à l'heure, j'ai dit juste un petit mot en ce qui concerne travailler pour la nourriture futile. Amen. J'ai donné un exemple là-dessus. La deuxième forme de travail, qui est le travail qui stresse, le travail qui donne des angoisses, le travail qui n'est pas vraiment béni, c'est ce travail-là, donc, qui est venu après la chute dans le jardin d'Éden. Et sans vous en rendre compte de manière inconsciente, vous pouvez travailler avec l'esprit de Adam qui a chuté. Je veux dire, il y a deux manières de travailler. La mauvaise manière de travailler, c'est travailler avec l'esprit de la chute de Adam. Et puis, il y a travailler avec la mentalité des fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Avant de lire Genèse 3, d'abord Genèse 2, 5, il est dit, le passage qu'on vient de lire tantôt, « Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » Donc, il faut comprendre aussi que Adam aussi est né pour travailler. Amen. De Genèse 2, 15, il est dit, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Donc, une des raisons pour lesquelles Dieu a créé l'homme, c'est que Dieu l'a créé, Dieu l'a fabriqué, Dieu l'a mis, et il l'a mis dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour garder. Et la dernière fois, donc, lorsque j'ai fait une introduction, j'ai parlé un peu de ce sujet, j'ai dit que le travail béni de Dieu, c'est un travail qui est fait pour cultiver et pour garder. C'est ce dont le Seigneur parle en disant, travailler pour ce qui demeure pour l'éternité, et non pour la nourriture qui va périr. Amen. Amen. Vous constatez ici que dans le jardin d'Éden, il y avait déjà plein d'arbres fruitiers. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit que dans le jardin d'Éden, il y avait toutes sortes de fruits agréables à voir et bons à manger. Et Adam progressait dans ce jardin-là. Pourtant, Dieu lui demande de cultiver. Donc, Adam ne travaillait pas pour manger. Amen. Adam ne travaillait pas pour un salaire à la fin du mois. Et je l'ai déjà dit en parlant de l'amour, en citant certaines choses. Si vous travaillez pour l'argent, votre salaire, vous travaillez mal. Si vous travaillez pour cultiver ou pour garder, vous travaillez bien. Les deux esprits vont déterminer certains résultats dans votre vie. Tous les croyants, malgré le fait qu'ils soient fils de Dieu, mais qui travaillent sous la malédiction de Adam, trouvent dans leur entreprise des ronces et des épines. Tous ceux qui travaillent, selon Jean chapitre 6, verset 27 qu'on a lu tout à l'heure, travaillent pour la nourriture spirituelle, sont épanouis, retrouvent la paix dans leurs activités professionnelles. Ces personnes-là ne travaillent pas pour manger, mais elles ont toujours à manger. Alléluia. Bon, André, il y en a qui ne comprennent pas. Dis ça, viens, tu vas comprendre. Qui n'a pas bien compris ce que j'ai dit? Ok, ça vient. Genèse chapitre 3. Donc, Genèse 2, 15, retenez cette parole-là que Dieu vient de donner. Dieu a créé l'homme, il a mis dans le jardin pour cultiver, pour le garder. Ça, c'est avant que Adam et Ève ne mangent le fruit interdit. Donc, avant qu'ils n'aient mangé le fruit interdit, ils avaient déjà du travail. Ils avaient déjà du boulot. Amen. Ils menaient une activité. Ils devaient cultiver le sol. Ils devaient garder. Donc, c'était une bénédiction. Ce n'était pas un problème. Alléluia. Ils ne cultivaient pas parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils attendaient quelque chose. Donc, ils cultivaient pour autre chose. Et on va apprendre ce que c'est. Mais lorsque Adam et Ève ont péché en mangeant le fruit interdit, Dieu va prononcer une parole, une malédiction, et il va définir le travail travail qui devait être une bénédiction va prendre une autre tournure. Et cette tournure-là est négative. Et c'est cette tournure nouvelle après la chute qui conduit la plupart des hommes aujourd'hui. Les hommes travaillent selon la chute de l'homme. Selon Genèse 3. Genèse 3, il dit, à partir du verset 17, il est dit, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il est dit? Il dit dans ce passage que, comme tu as écouté la voix de ta femme, le sol que tu étais censé cultiver en Genèse 2:15 va commencer maintenant à te poser des problèmes. Pour tirer quoi que ce soit de la terre et pour te nourrir, pour te vêtir, pour t'occuper de ta maison, c'est avec de la douleur et de la souffrance. C'est avec peine que tu vas tirer la nourriture du sol. Verset 18, donc il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et Jésus-Christ va venir et il va abroger cette malédiction pour tous ceux qui croiront en lui. Donc, quand Dieu dit c'est avec peine, ça veut dire pour manger, tu vas souffrir. Jésus vient en Matthieu chapitre 6 et dit ceci. Maintenant je dis, ne vous inquiétez plus pour ce que vous devez manger ou pour ce que vous allez boire. Ça veut dire, avant on souffrait pour manger et boire. Maintenant, le manger et le boire ne doivent plus faire l'objet d'une souffrance. Ou bien vous n'avez pas lu ce verset avec moi. En Genèse 3, il dit inquiétez-vous parce que c'est compliqué. Inquiète-toi parce que tu vas suer pour manger. Tu vas avoir la sueur pour t'habiller. Tu vas avoir la sueur. Et quand tu vas travailler, il y aura des épines. Il y aura des ronces. Donc, Dieu dit à Adam, faut t'inquiéter petit. Ce que tu as fait là, inquiète-toi. Lorsque Jésus arrive, Jésus-Christ est le second Adam. Alléluia. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Ça veut dire, il dit, moi Jésus, j'arrive. On recommence le film. Comme tu es en moi, une nouvelle création, ça veut dire, tu es une création qui n'a pas existé. Je recommence la création. Une nouvelle création. Je dis toujours, je le répète, Jésus n'a pas dit que si quelqu'un est en Christ, il est une créature améliorée. Non. Jésus n'améliore pas, il n'améliore pas ton passé. Le chrétien est un nouveau départ. La Bible, il ne faut pas ajouter quelque chose, il ne faut pas retrancher. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ça signifie quoi? Une autre version dit, si quelqu'un est en Christ, il est une créature, il est une nouvelle créature. Imagine, est-ce que tu es une créature? Voilà. Dès l'instant où tu rentres en Christ, tu es une nouvelle créature. Donc, il y a, toi avant d'avoir rencontré Christ, tu es l'ancienne création. Et il y a toi après avoir rencontré Christ, tu n'es plus la même personne. Si tu veux même, tu peux changer de nom. Mais tout ce qui est à l'intérieur de toi a été changé. L'enveloppe physique n'est pas importante. Je l'ai enseigné dans l'enseignement sur la nouvelle création. Procurez-vous les aider sur la nouvelle création. Parce que si les croyants ne comprennent pas ce que Jésus est venu faire, ils vont nous confondre avec ceux de l'ancienne alliance. On va croire qu'on est comme Moïse. La Bible dit que Moïse était serviteur dans la maison. Mais la Bible dit que nous sommes fils dans la maison. C'est pas pareil. Alléluia. Moïse était serviteur fidèle. Nous, on est les enfants. Ça veut dire, on a le même sang que notre papa. C'est différent. Donc, un serviteur fidèle, quelle que soit sa fidélité, ne peut jamais rattraper un fils. Parce que, je ne sais pas, c'est-à-dire, tu as un boy, il est compétent. Et puis, tu as un enfant qui est un peu médiocre. Maintenant, on te dit de choisir. Qui gardes-tu à la maison? Ton enfant ou le boy? Tu fais quoi? Vous comprenez? Donc, tu vas garder toujours ton enfant. Il n'y a pas de comparaison entre ton fils et le serviteur, fut-il un bon serviteur? Alléluia! C'est pourquoi la Bible dit, vous ne pouvez pas acheter le salut. C'est une grâce. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es sa fille. Amen. Tu vois, tu n'es pas le boy. Tu n'es pas la bonne. Donc ce n'est pas par tes œuvres, c'est pas ce que tu fais. Et puis il va dire, maintenant je t'aime. Et puis quand tu as mal fait, non. Quand tu fais mal, il est fâché avec toi, il te frappe. Voyez, tu es son enfant. Il doit t'éduquer. Voilà. Mais tu ne l'achètes pas par tes œuvres. Alléluia. Donc, est-ce que vous saisissez qu'on est une nouvelle création? Du coup, la malédiction de Adam n'a plus d'effet sur toi et sur moi. Mais il se peut que, malgré le fait que tu sois fils, tu te comportes comme un esclave. C'est-à-dire, dans ta tête, tu es à la maison, mais tu crois que tu dois mériter ta place chez ton propre papa. Donc, quand tu casses un verre, qu'est-ce que papa m'a dit? Peut-être qu'il va me chasser. Oh, peut-être qu'il va me chasser. Papa, je ne suis pas digne d'être ton fils. Je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. Aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Papa va me chasser. Tu vois? Le boy, s'il casse un verre, il ne sait pas. Si on va le renvoyer, si on va le garder, il a peur. Mais le fils, papa peut le frapper. Mais il est toujours fils. Papa peut le punir. Mais il est fils. Ça ne remet pas en cause l'identité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen, amen. Amen. Dis à quelqu'un, tu es sa fille, mais tu es son fils. Bon. Amen. Mais, et c'est à partir de là que commence donc la mentalité du travail nouveau. Donc, Adam s'est corrompu. Et c'est lorsqu'il était corrompu qu'il est devenu, que l'humanité était remplie d'une création maudite, avec des malédictions. Jésus vient pour tout recommencer. Nous amène à être une nouvelle création. Ce qui nous amène, du coup, à être dans d'une dimension supérieure. Mais nous pouvons ne pas saisir cela. Et continuer de travailler selon le premier Adam. Donc, quand nous regardons le travail, nous sommes convaincus que le travail égale problème. Et nous ne travaillons pas pour les choses de la vie éternelle, nous travaillons pour notre pain. Parce qu'il a dit, il dit à Adam, en fait, maintenant là, le pain qui était là gratuitement, tu vas l'avoir en souffrant. Avant que Adam ne soit maudit, les fruits étaient là gratuitement. Adam travaillait pour autre chose. Lorsqu'il a mangé le fruit interdit, maintenant il travaillait pour les fruits, donc pour le salaire. Jésus vient. Il dit, non, on recommence le film. Si quelqu'un croit en moi, il est une nouvelle création. Il est fils de Dieu. Donc, je vous dis à vous, mes enfants, ne travaillez plus, ne vous inquiétez plus pour ce que vous allez manger, ni de quoi vous allez boire. Et puis, Jean 6, travaillez, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt. C'est-à-dire comme les païens travaillent là. Travaillez avec une autre mentalité. Et c'est cette mentalité du travail selon Dieu que nous voulons développer. C'est un travail excellent. Quand vous travaillez selon Adam et Ève, qui ont chuté, votre travail vous crée des problèmes. La Bible dit qu'il y a des ronces et des épines. Les ronces et les épines sont le symbole de la pression de la vie, du stress de la vie, des angoisses. Dans le livre de Matthieu chapitre 13, Jésus décrit une terre qui a des épines. Il dit, lorsque quelqu'un reçoit la parole dans les épines, il grandit, il est fils de Dieu, mais il la reçoit dans des épines. Il dit, la plante grandit, vous lisez donc Matthieu chapitre 13, Luc chapitre 8, il dit, mais elle ne donne pas son fruit parce que les épines l'étouffent. Et il dit, on demande à Jésus, mais c'est quoi les épines? Quand Jésus explique les épines, il dit, les épines, ce sont les soucis et les inquiétudes de ce siècle. Ça veut dire quoi? Donc les épines que Jésus décrit, la Bible décrit en Genèse 3, lorsqu'il dit, la terre va te produire des épines. Ça veut dire, ton travail va te produire des soucis et des inquiétudes. Et il explique que c'est avec beaucoup de souffrance et de soucis par rapport aux réalités du siècle dans lequel tu te trouves que tu vas gagner ton pain. Donc, pour que la maman puisse nourrir sa fille aujourd'hui, elle est soucieuse. Ma fille va aller dans quelle école? Mon enfant va aller où? Et puis, ça fait beaucoup d'angoisse. Tu portes un fardeau lourd pour avoir quoi que ce soit. C'est une malédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus dit que les ronces et les épines, en Matthieu chapitre 13, Jésus, on lui demande, c'est, les ronces et les épines, ça signifie quoi? Il dit les épines qui empêchent la plante de donner son fruit, ce sont les soucis. Ce sont les soucis de ce siècle. C'est-à-dire, tu t'assois le matin, comment ton enfant va aller à l'école? C'est un souci de ce siècle. Matthieu 6, il dit, ne vous inquiétez pas pour ça. Toi, tu te soucies. Mais tu te demandes, mais pasteur, je vais faire comment? Si on ne se soucie pas, on fait comment? Mais tu as des difficultés pour comprendre la nouvelle dimension du travail. Parce que depuis que tu es né, tu ne connais que le travail de Adam maudit. Mais il y a une autre manière de travailler. Sans soucis, sans épines, sans ronces. Et parce qu'on a besoin de faire beaucoup de choses à la fois. Tu as beaucoup d'activités. Et les activités te prennent. Tu rentres tard à la maison. Sans ton travail en train de jouer sur ton couple. Sur ton... C'est ça les ronces et les épines. Pourquoi? Toi, tu aurais bien voulu avoir des vacances. Mais tu travailles jusqu'à minuit 30. Et tu bosses. Et ça joue sur ton couple, ça joue sur ton foyer. Donc, pourquoi es-tu au travail si tardivement? À cause d'un souci. Parce que si tu ne vas pas, on va te renvoyer. Si on te renvoie, on mange comment? Or, en même temps que tu es au boulot, tu n'as pas le temps d'éduquer tes enfants. Tu n'as pas le temps de les former. Mais pourquoi? Les soucis et les inquiétudes de ce siècle. Et la conséquence du souci et des inquiétudes, Jésus le décrit en Matthieu 13. Il dit que la plante, la graine qui est tombée au milieu des épines, se représente des croyants, ce ne sont pas des païens. Il dit que c'est quelqu'un qui a reçu la parole. Donc il vient à l'église. Celui qui n'a pas reçu la parole, vous connaissez Matthieu, la parabole, non? Pour les nouveaux. Tout le monde connaît Matthieu 13. Il dit, parce que Jésus décrit quatre types de terre. Il dit, le premier, c'est quelqu'un qui entend la parole, mais le diable enlève. Donc il n'est même pas venu à l'église. Ou bien il est arrivé à l'église, il a entendu l'évangile, il est parti. C'est quelqu'un, on lui a prêché la parole, ce n'est pas rentré en lui. Le deuxième cœur, il dit, c'est une personne qui a reçu la parole, qui la reçoit avec joie. Mais cette graine est tombée sur le sol, un sol pierreux. Lorsque ce croyant part, dès que survient une persécution, comme il n'a pas pris le temps de s'enraciner en Christ, les persécutions tuent sa foi. Il dit, le troisième, c'est un croyant qui a reçu la graine. S'il y a des épines sur le sol, c'est que la terre est bonne. Donc c'est quelqu'un qui a cru, qui a cru en Jésus, qui a laissé ses racines grandir en Christ. Maintenant il a commencé à croître. Et quand il a commencé à pousser, lorsqu'il s'agissait de porter son fruit, la Bible dit qu'il n'a pas pu parce qu'il avait trop de soucis. En fait, le mauvais travail qui produit les épines et les ronces vous empêche de porter le fruit de votre destin. Tu peux, le mauvais travail, les ronces et les épines, vous donnent une vie qui tourne en rond. Parce que c'est avec beaucoup de douleur qu'il faut gagner votre pain. Et même quand tu obtiens, tu perds. Parce que ce n'est pas un travail que Dieu bénit. Et Jésus dit, ne vous inquiétez pas, parce que ce sont les païens qui s'inquiètent pour cela. Mais vous, mes enfants, vous avez un autre problème, ce n'est pas ça. Mais à cause des soucis, des inquiétudes. Il dit, dans Luc, il décrit la parabole, il dit, cette plante a donné du fruit, mais le fruit n'est pas devenu mûr. Il donne la parabole, Jésus donne deux explications. La première, il dit, la plante n'a pas donné son fruit. La deuxième fois, il explique que, en fait, il y a certaines plantes même qui ont eu du fruit, n'a jamais atteint sa maturité. Ça veut dire, c'est une personne qui commence, mais qui ne finit jamais ses projets. Qui a des idées, mais qui ne va jamais au bout. Le fruit n'atteint jamais la maturité. Pourquoi? Parce que ce croyant, malgré qu'il ait grandi en Jésus, mais il a reçu la parole de Dieu. Il a grandi dans sa foi, mais il a grandi au milieu des ronces et des épines. C'est-à-dire, il a grandi avec la mentalité de l'ancienne création. Quoi qu'il est fils, mais il grandit avec une pensée d'esclave. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia! Je finis avec cela. Le fils prodigue. Le second fils, le fils aîné qui est resté avec son père. Vous savez qu'il, dans sa bouche, il s'appelait fils, mais dans ses pensées, il se définissait comme un esclave. Lorsque son père est arrivé, il dit, papa, moi je suis toujours avec toi. Le fils qui a dépensé tout ton argent, il revient, c'est pour lui que tu tues le veau d'or. Moi qui suis avec toi, tu n'as même pas daigné sacrifier même un chevreau pour moi, un petit animal pour moi. Son père était choqué. Il dit, mon fils, toi tu es toujours avec moi, tout ce qui est à moi est à toi. Donc, tu m'appelles papa, mais dans ta pensée, je dois récompenser tes efforts en te donnant un animal pour que tu fasses la fête avec tes amis. C'est ce que le fils aîné a demandé. Il dit, papa, moi je suis avec toi, je t'ai été fidèle, tu ne m'as jamais récompensé. Ça veut dire que tu m'as jamais donné un salaire. Donc, le fils aîné travaillait chez son père avec la mentalité qui donne des soucis. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la nourriture était là, il pouvait manger, mais il ne mangeait pas. Parce qu'il pensait que son papa devait le récompenser. Un peu comme un fils qui est à la maison. Vous ne savez pas, mais ta fille a soif, elle ne boit pas. Elle a 15 ans. Et puis, quand elle arrive, il dit non, parce qu'il faut que maman sache que je suis quelqu'un de très poli, de très respectueux. Avant d'ouvrir le réfrigérateur, maman doit me donner l'autorisation. Quand elle vient, maman, puis-je boire de l'eau, s'il te plaît? Si tu as un fils comme ça, il y a un problème, non? Ah, tu dis, sers-toi. Parce que ta maison, c'est sa maison. S'il n'ouvre pas le réfrigérateur, c'est parce qu'il est trop un enfant. Tu estimes que s'il est grand, il peut ouvrir. Si ta fille, quand elle grandit, elle n'a pas te demandé la permission pour faire des œufs. Elle prend, elle casse, elle prépare. Quand tu viens, elle dit, hé, maman, j'ai fait la cuisine. Mais la bonne, elle doit te demander la permission. Mais le fils ne demande pas. Il demande la permission seulement parce qu'il est enfant. Mais plus il grandit, moins il demande des permissions. Je dis, ta fille rentre dans ta propre chambre, ton bébé, elle saute sur ton lit. Ton boy, quel que soit la manière dont tu l'aimes, ne peut pas rentrer dans la chambre et puis sauter sur le lit. Même si tu appelles ta nounou ma fille. Quand tu arrives à la maison, ta nounou, elle t'appelle maman. Tout ça, c'est bien. Mais même quand elle dit maman, là, elle sait qu'il y a maman et il y a maman. La manière dont ton vrai enfant te dit maman, et puis elle te dit maman, c'est pas pareil. L'enfant peut être dans la maison, puis pendant qu'il est en train de dormir, maman, lève-toi, et puis elle saute sur le lit. Tu as dit, et pourquoi elle saute sur ton lit? Parce que ton lit, c'est son lit. Mais la bonne, le boy, c'est Jacques. Ça veut dire, tu peux tout lui donner, mais il y a une intimité qui n'est pas à lui, dans laquelle tes enfants peuvent entrer. Amen, 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 amen. Amen, amen. Dis à un voisin, tu es un fils. On a compris, non, ce que j'ai dit. On va s'arrêter là. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, on va travailler efficacement. Mes amis, lorsque nous allons apprendre à travailler selon Dieu, dans la mentalité des fils du royaume, vous allez voir les résultats que vont donner les activités professionnelles que vous menez. Amen. Vous allez voir comment travailler sans souci, sans rond, sans épine. Amen, amen, amen. Travailler, aller au boulot avec une autre mentalité. Pas parce qu'il y a un salaire à la fin du mois. Bien vrai qu'on va vous payer à la fin du mois, il faut qu'on vous paye. La Bible dit que le vrai mérite son salaire. Mais il y a deux manières d'attendre le salaire. Si tu attends ton salaire comme Adam qui a chuté, attend le salaire. Et si tu attends le salaire comme un fils, si tu attends comme Adam, ça ne sera pas une bénédiction. Mais si tu attends ta rémunération autrement, tu vas avoir au-delà de tes attentes. Parce que ton Dieu est riche en abondance. Mais si tu crois que c'est ton patron qui te doit quelque chose pour le travail que tu as fourni pour lui, tout ce que tu auras sera limité et sera sujet à la malédiction de Adam qui a chuté. Si tu travailles dans la mentalité du royaume, le même patron qui paye un frère va donner le même salaire à l'autre, mais dans la main de ton voisin qui a le même salaire que toi, parce qu'il travaille avec une autre mentalité, ce salaire-là sera une bénédiction dans ses mains. Et Dieu va bénir le travail de ses mains. Tandis que toi, qui es aussi croyant, mais qui reçois ton salaire dans les ronces et les épines, ton salaire ne donnera pas du fruit. Amen. Et pourtant, vous deux fréquentez la même communauté. Vous deux, vous êtes dans la même structure. Vous deux, vous êtes dans la même boîte. Vous deux, vous êtes censés avoir le même salaire. Tu risques de commencer à soupçonner le mal. Tu dis, le frère, là, André fait des trucs bizarres derrière. Mais il fait rien. C'est juste une mentalité. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous apprenne à travailler selon lui. Prions le Seigneur. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Merci Père pour ta grâce divine. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous as dit pendant ces moments, Seigneur Dieu. Merci parce que tu te révèles à nous. Tu nous conduis dans les profondeurs de ta parole, éternel Dieu. Tu nous donnes en toutes choses être efficace pour toi. Que la louange, la gloire te soit rendue au sein des siècles. Merci Père pour tes bienfaits. Briando Shaba Kayandari de Vros. Praï de Glorianda Bodo Shatari de Bros. Brinda Baba Shaba Kayandari de Vros. Nous travaillons maintenant. Répète après moi. Dis avec moi. Je travaille avec la mentalité d'un fils de Dieu. Je suis fils de l'Éternel. Mon Père est prospère. Et je suis prospère. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'ai une mentalité de vainqueur. Je suis fils de l'Éternel. Je suis fils du Dieu très haut. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.
Je chanterai toujours ton nom. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je ne me lasserai de parler de ta fidélité. Je dirai tout haut ce que tu avais pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de toi, de ta bonté. Je dirai tout haut ce que tu as fait
pour moi.
Je proclamerai. Son nom tout haut. Tout ce qu'il a fait pour moi, je proclamerai la gloire de Jésus. Je parlerai
de ta bonté.
Vous avez été béni par ce message. À votre tour, conseillez-le à une personne. Vous contribuerez ainsi à faire progresser l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.